Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est 8h à Port-au-Prince, 13h en temps universel.
RFI Midi.
Anne Contner.
Sur le continent américain, durant la prochaine demi-heure, après 3 jours de présidence Trump, déjà marqués par un durcissement radical concernant l'accueil et l'immigration, nous irons au Mexique voisin où, comme le redoutaient de nombreuses associations d'aide aux migrants, ceux qui souhaitent entrer aux États-Unis se tournent maintenant vers les passeurs pour tenter un passage illégal, ce qui les soumet aux méthodes plus que douteuses de ces réseaux. On parlera aussi d'Haïti. Le secrétaire général des Nations Unies s'est ému hier de la lenteur inquiétante de la transition politique, alors que la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Et pour y faire face justement, le ministre haïtien des Affaires étrangères réclame une mission de l'ONU à la place de l'actuelle mission multinationale dirigée par le Kenya. Nous serons en ligne dans quelques minutes avec le rédacteur en chef du quotidien haïtien Le Nouvelliste. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Emma Jaconelli, on parlera tout à l'heure des réquisitions contre le leader du mouvement AIRPRAC en Martinique.
Le chef de file de la contestation contre la vie chère risque 30 mois de prison, dont 15 avec sursis.
À tout à l'heure. Et le journal d'abord. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et cette parole très attendue de Donald Trump tout à l'heure à Davos.
Après ses multiples menaces d'augmenter les droits de douane tout azimut, le président américain interviendra en fin d'après-midi par visioconférence au Forum économique mondial. Il devrait, sauf surprise, développer sa vision du monde et des affaires, faite de négociations bilatérales, loin du multilatéralisme toujours honni. Nicolas Feldman.
C'était déjà en 2020 une rupture. À la tribune de Davos, Donald Trump défend sa politique économique désormais axée sur les seuls intérêts des Américains.
L'Amérique est parvenue à adopter une toute nouvelle approche entièrement centrée sur le bien-être du travailleur américain. Chaque décision que nous prenons en matière d'impôts, de commerce, de réglementation, d'énergie, d'immigration, d'éducation, tout cela est centré sur l'amélioration de la vie des Américains ordinaires.
5 ans plus tard, à Davos, Donald Trump devrait promettre d'appliquer les mêmes recettes. Plus de protectionnisme, moins de règles et moins de place à la coopération entre les États, soit l'inverse du modèle prôné à Davos, l'économiste Isabelle Bensidoun, membre du CEPI.
Il n'a pas une stratégie de ce qu'on peut voir à Davos sur un certain nombre de décisions qui doivent être prises en commun. Sur la transition écologique, il faut faire des choses, elles peuvent être que multilatérales. C'est sûr qu'il n'est pas dans la coopération, il est sans doute plus dans la négociation pour obtenir des concessions pour les Américains.
Avec déjà un aperçu de son second mandat dès lundi, Donald Trump a acté le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat ou encore de l'Organisation mondiale de la santé.
En Colombie, les autorités ont décidé de réactiver les mandats d'arrêt contre les principaux chefs de l'ELN. Le gouvernement acte ainsi la fin des pourparlers de paix avec l'une des principales guérillas du pays. Bogota réagit après une flambée de violence dans plusieurs régions du pays. Les groupes armés s'affrontent pour le contrôle de territoires et des routes du trafic de drogue.
Au Venezuela voisin, la situation est scrutée de près. Des combats ont lieu à sa frontière.
Et c'est dans ce contexte que le président Maduro a lancé des exercices militaires de grande ampleur. Une campagne qui intervient aussi quelques jours après sa prestation de serment pour un nouveau mandat, malgré les soupçons de fraude massive. À Caracas, Alice Campagnol.
Opération bouclier bolivarien en défense de la paix et de la démocratie. Tout un programme démarré hier en fanfare. Des troupes militaires, policières et civiles ont été déployées sur tout le territoire vénézuélien. 150 000 personnes officiellement qui mènent des exercices aux quatre coins du pays. Nicolas Maduro a lancé l'opération.
Si tu veux la paix, construis-la. Si tu veux la paix, défends-la. Si tu veux la paix, préserve-la. Avec la paix, nous avons tout réussi. Avec la paix, nous irons loin.
Le président a parlé de menaces qui pèsent sur le Venezuela et notamment des groupes fascistes, faisant ainsi référence à l'opposition. Il a également évoqué les paramilitaires du voisin colombien, la Colombie avec qui les relations se sont tendues ces derniers mois. Cette opération, organisée chaque année depuis une décennie, a lieu dans un contexte de grande tension. Nicolas Maduro, dont la réélection est contestée, a prêté serment il y a quelques jours, tandis que le candidat qui revendique la victoire à la présidentielle promettait de prendre le pouvoir. Mais c'est bel et bien Nicolas Maduro qui est toujours à la tête du pays et surtout des forces armées. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
En Cisjordanie occupée, des centaines de Palestiniens quittent le camp de réfugiés de Jenin sur ordre de l'armée israélienne, selon les autorités locales. Israël dément en avoir ordonné l'évacuation. L'État hébreu mène depuis lundi une vaste opération militaire dans la ville.
Le Parlement européen à Strasbourg condamne la répression en Iran et exige la libération immédiate de 4 ressortissants européens qui sont détenus par le régime.
Une résolution d'urgence a été adoptée à une très large majorité au Parlement à la mi-journée. En marge de la session plénière, des proches de 3 Français retenus en Iran ont été reçus par des eurodéputés. Leur objectif, faire en sorte que les 27 envoient ensemble un message fort à Téhéran. Anastasia Becchio.
Pendant 2 jours, ils ont multiplié les rendez-vous au Parlement européen. La sœur de Cécile Kohler, professeure de français, arrêtée en mai 2022 avec son compagnon Jacques Paris, ou encore Tristan Bultiau, porte-parole du comité de soutien à Olivier Grondeau, le 3e otage français.
Nous, on est inquiets tous les jours qu'il se fasse du mal. Il est très dépressif. Il est vraiment sous la pression constante de la peur de l'exécution. Ses camarades de cellule sont souvent la cible de peine de mort. Et du coup, c'est une ambiance extrêmement délétère pour son esprit dans laquelle il vit.
Les proches des otages ont été invités au Parlement européen par la députée socialiste Chloé Ridel. C'est elle qui a poussé à l'adoption d'une résolution exigeant la libération des otages retenus par le régime des Mollahs.
Ça va amener l'Union européenne à se positionner officiellement pour demander la libération de ce que nous on appelle des otages, parce qu'en fait le régime iranien emprisonne des gens pour faire pression sur la France, pour faire pression sur l'Europe. Et c'est une pratique mais absolument délétère qu'on combat, parce que Cécile, Jacques ou Olivier, ils n'ont rien à voir avec la diplomatie, ils n'ont rien à voir avec la politique étrangère de quelque pays que ce soit. Et c'est leur vie qui aujourd'hui est complètement gâchée et ruinée par le régime iranien depuis 2 ans.
Les proches des otages français estiment qu'il est urgent de créer une coordination entre les États. Une 15aine d'Européens sont actuellement détenus en Iran. Anastasia Becchio, Strasbourg, RFI.
Du sport à présent, et la star montante du basket aux États-Unis, à qui on promet une carrière encore plus grande que celle de Michael Jordan, le Français Victor Wembanyama, à Paris aujourd'hui.
Et ce soir, il sera sur le parquet de Bercy. La NBA y a pris ses quartiers cette semaine pour la 4e fois depuis 2020. Au programme, 2 rencontres de saison régulière délocalisées à l'Accor Arena. Une double confrontation entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers. Devant ses supporters, et pour cette raison très particulière, Wemby et ses 2m22 a envie de bien faire. Victor Misistrano.
Il est apparu le visage un peu plus fermé que d'habitude à la veille de ce grand rendez-vous.
J'ai l'air sérieux, c'est juste qu'on est après l'entraînement et que je suis fatigué. Mais je suis toujours concentré sur le match.
Très concentré, Victor Wembanyama attend ce moment depuis de longs mois. Il veut marquer ces 2 matchs de son empreinte. Cette semaine, Wemby a tout de même profité de ce passage à Paris avec ses coéquipiers, le meneur de jeu Chris Paul.
Dans le bus pour aller s'entraîner, Victor s'enthousiasmait de la beauté de la ville. Il est très cultivé, il nous a expliqué quand le Louvre avait été construit et pourquoi. Et sans doute parce que je suis le plus vieux, j'ai apprécié.
À 39 ans, le vétéran des Spurs en a vu d'autres, il ne sera pas bouleversé par cette délocalisation.
C'est sympa d'être ici, mais une fois l'entre-deux effectué, ce sera un match normal. Et par chance, on a Victor dans l'équipe, donc on devrait jouer à domicile.
Un point de vue partagé par son adversaire des Pacers, l'ailier camerounais Pascal Siakam.
Tout le monde va supporter les Spurs, donc pour nous, c'est un peu de motivation. L'essentiel, c'est juste de gagner les matchs. On a ce même focus-là quand on joue, je sais pas où, dans une autre ville aux États-Unis, donc c'est la même chose.
Un match classique pour tout le monde, ou presque, pas pour Victor Wembanyama, ni pour les 16 000 privilégiés qui seront dans les tribunes.
Le premier des 2 matchs a lieu donc ce soir à 19h, temps universel.
Merci Karine Bellicha. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes et on prend d'abord la direction des États-Unis.
RFI, The World's Voices.
Où Donald Trump bloque l'accès à l'immigration, comme l'écrit ce matin le Washington Post. Le nouveau président a annoncé hier l'envoi de 1500 militaires supplémentaires à la frontière mexicaine, fermée. Mais selon la presse, ce sont 10 000 hommes qui pourraient bientôt être déployés. Et CBS nous apprend aussi que l'administration envisage d'utiliser les bases du ministère de la Défense pour détenir les migrants en attente d'expulsion. Nouvelles étapes du durcissement de la politique migratoire, en plus de l'annonce de l'état d'urgence dans la zone ou encore de la suspension de CBP One qui permettait aux migrants de prendre rendez-vous pour leur demande d'asile du côté mexicain de la frontière. Vous avez pu l'entendre sur notre antenne ces 2 derniers jours. La conséquence immédiate, c'est que des milliers de personnes sont bloquées sans autre perspective que de renoncer ou bien de se tourner vers des passeurs. des trafiquants qui mettent en place de nouvelles techniques, de nouvelles manipulations. Notre envoyé spécial à McAllen au Texas, Eric Sanson, a constaté que ces réseaux utilisent de plus en plus souvent des enfants qu'ils louent pour maximiser les chances de faire passer les migrants de l'autre côté, aux États-Unis.
Comme pratiquement tous les jours depuis plus de 20 ans, Steve Rodriguez patrouille le long du Rio Grande, aussi connu comme le Rio Bravo. Superviseur des unités marines de la patrouille frontalière près de McAllen, il connaît le fleuve comme sa poche, mais c'est aussi que les trafiquants d'êtres humains ne sont pas des amateurs.
Les passeurs sont des trafiquants de deuxième, troisième et parfois quatrième génération. Ils savent comment faire.
Dans ce jeu permanent du chat et de la souris, les coyotes, comme on les appelle, ont souvent un coup d'avance. La location d'enfants mineurs en fait partie, comme le regrette un agent de la patrouille qui préfère garder l'anonymat à bord de sa vedette.
On ne prend pas les empreintes des migrants mineurs. On fiche les adultes détenus et ils peuvent nous donner le vrai nom des enfants qui les accompagnent, ou pas. Parfois les enfants ont des papiers, parfois non. Pour résumer, on note les informations que les migrants nous donnent, puis on les relâche. Les faux parents prennent le bus vers le nord, l'enfant loué repasse la frontière et arrive une nouvelle famille avec ce même enfant.
Peu à peu, parfois par hasard, les agents de la patrouille ont fini par découvrir le stratagème. Steve Rodriguez.
Il y a longtemps, on prenait des photos des familles de migrants détenus. Et parfois, on reconnaissait l'enfant sur les photos d'autres familles. On se disait, attendez, c'est le même gamin qui était avec d'autres parents. On appelait alors le consulat mexicain qui l'interrogeait et se rendait bien compte que l'enfant était loué pour traverser.
Aujourd'hui, le service de l'immigration et des douanes, connu sous le nom de ICE, dispose d'un système de reconnaissance faciale qui facilite l'identification des enfants que les cartels et les mafias emploient pour que les migrants détenus ne soient pas rapidement déportés. Utilisé par des groupes criminels comme la Mara Salvatrucha du Salvador, le train d'Aragua du Venezuela, les bandes mexicaines Los Sureños et Paisas, ces mineurs sont connus comme les enfants du circuit par les universitaires qui étudient le phénomène. Des universitaires comme Jennifer Bryson Clark, de l'Université du Sud Texas, spécialiste des trafics de personnes.
On dit que les enfants de circuit touchent $100 par voyage.
Pas une grosse somme, c'est sûr, mais assez pour tenter le coup. Utilisés dans le trafic de personnes, mais également de drogue, les enfants du circuit sont des proies faciles pour les trafiquants.
Les enfants de circuit sont recrutés dans des familles pauvres. C'est une façon de gagner de l'argent et c'est excitant pour les enfants. Quand on a 13 ou 14 ans, c'est comme une aventure. Ils ne comprennent pas trop ce qu'ils font. Ils sont faciles à recruter et le motif principal est la pauvreté.
À moins de séparer les familles, ce qui est déjà arrivé lors du premier mandat de Donald Trump, le fait que les migrants soient accompagnés d'enfants mineurs complique la tâche des agents de l'immigration américaine. Selon Elmer Martinez, assistant de direction sur le pont d'Hidalgo, une zone de passage très fréquentée entre McAllen et Reynosa.
Le migrant adulte est soumis à un test ADN que l'on envoie au FBI, mais pas les enfants. On ne fait pas de test de paternité. On se base sur l'expérience des agents et les entretiens personnels pour savoir si les enfants avec qui les migrants voyagent sont les leurs.
Une expérience qui n'est parfois pas suffisante pour détecter tous les enfants de circuit qui sont de surcroît protégés pour être mineurs. Une situation pas toujours facile à vivre pour les agents de la patrouille frontalière. Steve Rodriguez.
Ça peut être décourageant. Vous venez bosser, vous faites votre job, vous attrapez des migrants, vous les fichez, et puis il faut les relâcher, et ils finissent par rentrer aux États-Unis. Oui, c'est décourageant.
Identifier ces enfants est important pour Jennifer Bryson Clark, pour éviter qu'ils ne soient recrutés par les bandes pour des tâches chaque fois plus dangereuses et compromettantes. Elle a un exemple dans sa propre université.
L'un de mes étudiants avait plus de 18 ans quand il a été recruté par un autre étudiant pour être guetteur pour un cartel de ce côté de la frontière.
Une spirale dont il est malheureusement très difficile de sortir et qui commence souvent comme un jeu pour les enfants pour faciliter le passage de migrants à la recherche du rêve américain. Eric Sanson, McAllen, RFI.
Et Donald Trump va pouvoir s'appuyer sur une nouvelle loi votée hier par le Congrès. Texte qui prévoit la détention automatique des migrants en situation irrégulière qui ont été condamnés ou même inculpés, y compris pour des délits mineurs. L'avocate texane Carla Marisol Vargas s'en désole, d'autant plus que ce texte a été soutenu par une quarantaine d'élus démocrates.
Cette loi prévoit une peine d'emprisonnement obligatoire pour les migrants en situation irrégulière et ce même pour des délits mineurs. Par exemple, si une adolescente vole un rouge à lèvres, cela pourrait entraîner une peine de prison obligatoire en vertu de ce projet de loi. Mais une telle mesure violerait la Constitution qui garantit des protections fondamentales comme le droit à une procédure régulière. Cette loi est extrêmement dangereuse et elle nuit particulièrement à ceux qui sont déjà constamment ciblés et stigmatisés dans le climat politique actuel. Le fait que des démocrates aient également voté pour ce texte illustre un glissement vers la droite de ce pays. La politique nationale dérive vers des positions conservatrices et cela s'inscrit malheureusement dans une tendance internationale. C'est vraiment décevant de voir nos représentants, ceux en qui nous avions confiance pour combattre cette dérive droitière, se ranger de ce côté. Nous avions vraiment espéré qu'ils feraient mieux.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial Achim Lippold. Autre dossier qui inquiète beaucoup aux États-Unis, c'est la politique environnementale de Donald Trump, ou plutôt l'absence totale de mesures en faveur de la planète. Au cours de l'interview qu'il a donnée hier à la chaîne Fox News, le nouveau président a dit son intention de supprimer la FEMA, l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles. « Je préférerais, a-t-il dit, voir les États s'occuper de leurs propres problèmes ». Et ce, alors que les incendies reprennent à Los Angeles. Tout cela s'ajoute à une série de décrets pris dès les premières heures de son mandat pour démanteler les législations environnementales de l'administration Biden. Pourra-t-il tout défaire? Pas sûr. Selon Frances Colon, ancienne conseillère de l'administration de Barack Obama et experte en politique climatique au sein du think tank démocrate Center for American Progress, les États américains et les investisseurs pourraient en fait prendre le relais pour la transition énergétique.
Sous la présidence de Joe Biden, la plus grande loi sur le climat de l'histoire des États-Unis a été adoptée, avec de nombreuses incitations à la transition vers une économie d'énergie propre. La majeure partie de cet argent est déjà utilisée et mise en œuvre. Et pour démanteler ces incitations, il faudrait adopter une autre loi, ce qui est beaucoup plus difficile à faire parce que la plupart de ces projets se déroulent dans des États républicains, dans des États plus conservateurs, où des emplois sont créés. En revanche, ce que la nouvelle administration Trump risque de faire, c'est d'annuler les décrets et les règlements visant à réduire les émissions de méthane, les émissions des véhicules et les incitations à l'achat de véhicules électriques. Mais il existe un engagement de la part d'États, de communautés, d'universités, qui comprend des gouverneurs, des institutions, des organisations et des communautés. Il représente plus de 50% de l'économie et de la population des États-Unis. Donc c'est important que ce groupe s'engage à se rapprocher le plus possible de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre présenté en décembre dernier.
Frances Colon, ancienne conseillère de l'administration Obama et experte en politique climatique pour le Center for American Progress. Elle répondait à Raphaël Morand. L'administration Trump a aussi reconnu hier Edmundo González Urrutia comme le président légitime du Venezuela, l'opposant en exil et qui a vraisemblablement remporté la présidentielle de juillet dernier. Officiellement gagné par Nicolas Maduro, reconduit pour un troisième mandat. Le nouveau secrétaire d'État américain a parlé hier aux candidats déçus. Il a aussi discuté avec la chef de file de l'opposition au Venezuela, Maria Corina Machado. Un mot encore de cette nouvelle administration aux États-Unis et de ses liens avec les pays voisins. À la une de votre revue de presse, Christophe Paget, s'affiche la volonté du président argentin de montrer sa proximité avec Donald Trump.
Oui, puisque Milei réfléchit à quitter l'OMS et le traité sur le climat, titre Clarín, qui précise qu'il s'aligne avec la Maison-Blanche. Mais note que déjà en juin dernier, le président argentin avait donné l'ordre de ne pas suivre le nouveau protocole sur les épidémies de l'organisation onusienne. En tout cas, le quotidien rappelle que si l'Argentine quitte l'OMS, elle ne lui versera certes plus d'argent, mais elle n'aura plus accès aux vaccins et à d'autres médicaments. Dans son éditorial, Caroline parle d'une grave erreur. Nous espérions tous un monde plus uni, avec plus de coopération face aux menaces de nouvelles pandémies.
Mais ça n'est vraiment pas ce vers quoi penche Javier Milei.
Non, El Día rapporte que le président argentin pense aussi à abandonner le Mercosur, cette zone de libre-échange qui regroupe 5 États d'Amérique latine, si le Mercosur freine un traité de libre-échange avec les États-Unis. À suivre le discours aujourd'hui de Javier Milei en Suisse, au Forum de Davos, pendant lequel il pourrait répéter tout ça, écrit Rio Negro.
RFI, la radio del mundo.
La Colombie aussi, dans votre revue de presse, Christophe Paget, où on a réactivé les mandats d'arrêt contre les principaux chefs de la guérilla de l'ELN En moins d'une semaine, les affrontements entre groupes armés ont fait plus de 100 morts, dont plus de 80 et 32 000 déplacés dans la région du Catatumbo, à la frontière avec le Venezuela.
La paix totale en jachère, écrit El Colombiano. La paix totale, c'est celle qu'avait promise Gustavo Petro en arrivant au pouvoir. Les négociations avec le LN ne fonctionnaient plus depuis des mois et il était facile de prévoir depuis le début que cette guérilla ne voulait pas réellement la paix, insiste l'éditorialiste d'El Espectador. Avec en toile de fond le Venezuela, affirme-t-il, entre le lien connu entre le gouvernement chaviste et le LN et le maintien de Nicolas Maduro au pouvoir. El Colombiano renchérit. Avec des guérillas qui se déplacent facilement entre les deux pays et des routes de trafic de drogue contrôlées par le gouvernement et l'armée au Venezuela, le mandat de Maduro rendra la paix totale plus difficile. Et l'éditorialiste d'appeler à revoir l'ensemble du processus de paix et garantir une plus grande présence de l'État avant que l'on ne tue ceux qui ont respecté l'accord de paix de 2016.
Alors malgré ces violences dans son pays, le président colombien a maintenu sa visite en Haïti. Hier, il était très attendu. Gustavo Petro a passé quelques heures à Jacmel où il a rencontré les autorités haïtiennes avec plusieurs membres de son gouvernement. Et ils ont signé différents accords, Peterson Luxama.
Tous deux blancs vêtus, Gustavo Petro, attendu initialement dans la matinée, a atterri à l'aérodrome de Jacmel avec plus de 6 heures de retard. Le chef d'État colombien a été accueilli par des membres du Conseil présidentiel de transition, dont Leslie Voltaire. Les deux délégations se sont ensuite dirigées vers l'hôtel Manoir Adriana, où s'est tenu le Conseil des ministres binational. Les deux pays se sont engagés à collaborer dans le domaine de l'agriculture pour renforcer la résilience face au climat, de la culture, afin de valoriser leur patrimoine commun, de la sécurité pour lutter contre les trafics et de l'éducation pour préparer les jeunes au marché du travail. Dans son discours, le chef d'État colombien a présenté ses excuses au peuple haïtien pour l'implication de soldats colombiens dans la mort de l'ancien président Jovenel Moïse.
Je vous demande pardon parce qu'ici sont arrivés des Colombiens blancs pour assassiner le président d'Haïti. Au nom de tout le peuple colombien, je vous dis que nous ne croyons pas en cette mort propagée par ces Colombiens. Nous croyons en la vie.
Gustavo Petro a également lancé un vibrant appel à l'unité et à la solidarité entre les peuples latino-américains. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Cette visite du président colombien s'affiche en une de toute la presse haïtienne et nous sommes en ligne comme chaque jeudi avec le rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
Quelques heures de visite donc pour Gustavo Petro dans une ville de Jacmel qui était vraiment tout entière occupée par ce déplacement.
Tout à fait, tout s'était arrêté à Jacmel depuis quelques jours, on était en réparation, il y avait des travaux de peinture, il y avait des travaux d'arrondissement de la piste de l'aéroport. En réalité, on a mis le paquet sur Jacmel. Le gouvernement, c'était la première fois qu'il recevait un président, la première fois qu'Haïti en général recevait un président depuis quelques années, et surtout, c'était une grande première pour Jacmel. Les écoles étaient en vacances, l'administration a chômé, tout s'est arrêté pour rendre l'accueil le plus bien que possible.
Voilà, dans un pays en difficulté, Haïti faisait l'objet d'ailleurs d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies hier et Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, le ministre haïtien des Affaires étrangères, en a profité pour parler de la MMAS, la mission multinationale déployée très partiellement encore à Port-au-Prince. Écoutez.
Mon pays a demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies, dotée d'un mandat clair, de ressources adéquates et d'une expertise renforcée. Cette transition n'est pas seulement une nécessité logistique, mais une exigence stratégique pour répondre aux menaces multiples qui pèsent sur notre pays.
Transformer la mission actuelle, des appels comme celui du ministre, il y en a eu plusieurs hier, France, au regard de la situation catastrophique à Port-au-Prince.
Tout à fait, mais il y a surtout eu les propos du secrétaire général des Nations Unies qui a expliqué qu'il n'y a pas d'argent pour la mission, pour celle qui est là, et encore moins pour celle peut-être à venir. Et c'est la grande difficulté d'Haïti, c'est que depuis des années, on parle de mission, on a fini par avoir les Kenyans, mais en réalité, ça n'avance pas. Et là, depuis plus d'un an, on parle de transformer la mission en mission de maintien de la paix. Là encore, ça n'avance pas. Il y a toujours les mêmes réticences, particulièrement de la Chine et de la Russie, et aussi des autres pays amis d'Haïti qui ne contribuent pas vraiment financièrement à ce que la mission qui est déjà sur place soit viable et soit totalement déployée et soit effective dans l'aide qu'elle apporte aux forces de sécurité haïtiennes.
Et puis le secrétaire général des Nations Unies a même mis en garde contre le risque de voir les gangs prendre le contrôle de toute la capitale. Il a aussi parlé, comme la représentante des États-Unis d'ailleurs, de la lenteur inquiétante du processus de transition politique. 2025 s'annonce compliqué, dites-vous dans votre éditorial, en listant plusieurs écueils à éviter, et chacun d'entre eux, selon vous, est un écueil mortel.
Tout à fait. D'abord, on doit changer de constitution. C'est très compliqué à faire. Pour le moment, on n'en parle pas. Il y a un texte qui circule seulement dans les milieux très informés. Personne n'a vu le texte, mais déjà, il y a une date pour faire le référendum d'ici mars-avril prochain. Mais il n'y a pas de discussion sur le texte lui-même. Ensuite, il faudra faire une nouvelle législation électorale, permettre de savoir qui peut participer aux prochaines élections. C'est un verrou, c'est quelque chose qui est très attendu pour la classe politique. On n'en est pas encore là. Et puis enfin, il y a les élections à faire. Ces élections qui seront les premières depuis 2016, mais que ce soit sur le référendum, sur la loi électorale, sur la réalisation même des élections, il y a des écueils qui attendent le pays. Et à côté de tout ça, il y a la question sécuritaire. Pour le moment, Haïti n'est pas prête à prendre en main tout seul sa sécurité. Et malheureusement, la communauté internationale n'apporte pas un appui décisif sur la question sécuritaire. À côté de tout ça, ce n'est pas dit dans l'éditorial, mais tous les Haïtiens y pensent, personne ne sait encore quelle sera la position réelle de la nouvelle administration américaine vis-à-vis de la crise haïtienne.
Merci Franz Duval. On peut vous lire sur le site de votre journal lenouveliste.com. On vous retrouve maintenant, Christophe Paget, pour la fin de votre revue de presse au Canada, où l'entreprise Amazon ferme des entrepôts et supprime près de 2000 emplois.
Oui, fermeture de 7 entrepôts Amazon au Québec, licenciement de 1700 employés permanents, une annonce faite hier matin sans crier gare, note Le Devoir. Le géant américain du commerce en ligne va retourner à son système d'avant 2020, confier la livraison de colis à des sous-traitants. Une décision qui, selon les syndicats, s'inscrit dans le cadre d'une campagne antisyndicale menée par l'entreprise, rapporte The Globe and Mail, qui rappelle qu'en mai dernier, les employés de l'entrepôt de Laval avaient été les premiers d'Amazon au Canada à se syndiquer. Le Toronto Star souligne de son côté que l'an dernier, le tribunal du travail de Montréal avait ordonné à Amazon de cesser d'intervenir dans les affaires syndicales d'un de ses entrepôts. Dans le Montréal Gazette, Amazon affirme que non, ces fermetures n'ont aucun lien avec la syndicalisation.
La revue de presse signée Christophe Paget. Emma Jaconelli pour l'actualité des Outre-mer françaises. Emma, on connaît désormais les réquisitions à l'encontre du leader du RPRAC en Martinique.
Oui, le R, comme il est surnommé, sera fixé sur son sort vendredi. La décision du tribunal correctionnel de Fort-de-France a été mise au délibéré dans l'affaire datant de novembre dernier. Pour rappel, le leader du RPRAC est accusé de violation du domicile privé du préfet, de rébellion et d'incitation à la rébellion. Il risque 30 mois de prison, dont 15 avec sursis. Sa défense a plaidé la relaxe. Écoutez à la sortie de l'audience l'avocat du préfet, Maître Hauteville, suivi du conseil de Rodrigue Petitot, Maître Belmar.
Je ne commenterai pas les réquisitions du ministère public puisqu'elles appartiennent à celui qui requiert. Néanmoins, je constate qu'il y a des points de convergence puisqu'elles considèrent que les infractions sont caractérisées et que finalement, les circonstances exonératoires qui sont invoquées, notamment l'exercice d'une liberté d'expression, ne sauraient justifier l'injustifiable.
Je crois que le tribunal a pris le temps d'écouter M. Petitot, de visionner l'ensemble des vidéos qui figuraient. Il n'y a pas matière à maintenir M. Petitot en détention. Il n'y a pas matière. Les infractions ne sont pas constituées. Nous avons soulevé tous les arguments juridiques. Nous avons parlé de la Martinique, nous avons parlé de la situation, nous avons parlé de la vie chère, mais nous avons aussi fait du droit et nous avons démontré que les infractions ne sont pas constituées.
Des propos recueillis par Mike Irasque. Et nouvelle audience ce jeudi au tribunal de commerce de Fort-de-France. À l'origine de cette affaire, 4 lanceurs d'alerte leur demandent que le géant de la grande distribution outre-mer, le groupe Bernard Ayotte, respecte ses obligations légales. Les explications de Bertrand Caruge de Martinique la Première.
Des lanceurs d'alerte ont, pour ainsi dire, sommé sur le plan judiciaire le groupe Bernard Ayotte de s'expliquer sur une non-publication présumée de ses comptes. À l'initiative de la requête, Mathilde et Jérémy Désir qui disent avoir constaté avec stupéfaction que le groupe ne publie pas ses comptes depuis 2018. Or, selon l'avocat des investigateurs, c'est une obligation pour les grandes sociétés. De son côté, GBH affirme être en règle vis-à-vis de l'État. Bien que les comptes aient été annoncés comme ayant été publiés, l'audience avait été renvoyée au 23 janvier 2025 pour permettre une analyse détaillée de ces documents et vérifier leur conformité avec les exigences légales. L'avocat des lanceurs d'alerte a expliqué qu'il était nécessaire de prendre le temps de les examiner en détail. Rappelons que Jérémy Désir explique, je cite, que dans une démarche de justice, l'absence de transparence financière nuit aux consommateurs martiniquais. De son côté, son épouse Mathilde ajoute avoir identifié une pièce manquante du Pulse et concluant nous avons décidé, puisque personne ne le faisait, d'agir.
Bertrand Caruche de Martinique la Première, bonne journée.
Merci Emma Jaconelli et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée ce jeudi par Olivier Roux. Vous restez sur notre antenne, on se retrouve, nous, demain, 11h30, temps universel, et dans quelques secondes, Pascal Paradou avec vous pour son émission de Vive Voix.